Ce ne sera pas une grosse surprise d'apprendre qu'il y avait, puis il y a des auditeurs qui nous avaient déjà signalé la présence d'ailleurs de ventes de cannabis sur le territoire, les territoires autochtones, que ce soit Kanasetake ou Ganawake. C'est disponible maintenant, même des auditeurs qui nous racontaient, puis nous avaient invités à aller faire un tour là-bas pour aller voir qu'est-ce qui s'y passait. Vous comprenez que en vertu de la loi canadienne et sur le territoire québécois, il y a seulement la SQDC qui est supposée vendre du cannabis. Il est le seul fournisseur. Et vous pouvez acheter de lui directement. D'où vient le pot qui est vendu sur le territoire autochtone? Ah ben ça, c'est la grande question. Il est analyste en affaires policières, ancien policier de la Sûreté du Québec. François Doré est avec nous. Bonjour, M. Doré.
Bonjour, M. Beaumont.
Ça vient pas de la SQDC, là, d'après moi. Je pense pas qu'on se trompe, là.
Non, j'ai même l'impression que, à quelque part, l'histoire se répète à nouveau.
Ouais.
On peut remplacer le pot par bon alcool de contrebande, par tabac de contrebande, et je pense que c'est l'histoire qui se répète à peu près exactement ce qu'on a vécu au cours des dernières années.
Mais comment se fait-il qu'on a l'impression que ce qui se vend comme ça, que ce soit les cigarettes, que ce soit l'alcool, tout semble se faire sans impunité sur le territoire?
Ben,
en toute impunité?
En toute impunité, écoutez, sur le territoire de Ganawake, il faut comprendre que les peacekeepers, ils leur appartiennent de faire appliquer la loi. Sur le territoire de Kanasetake, c'est encore la Sûreté du Québec qui assure la desserte policière. On est prêt à voir quoi? Des interventions policières musclées et risquer des conséquences que l'on connaît. On ne reviendra pas aux années en arrière. On a vu le pont Mercier fermé, entre autres, parce qu'il y avait eu une intervention policière à un endroit. Mais aujourd'hui, oui, ce que vous avez avancé tantôt, c'est tout à fait vrai. Théoriquement, tout ce qui vient ailleurs que de la SQDC, ça demeure illégal. Et est-ce qu'il va y avoir des plaintes? Pas sûr. Est-ce qu'il va y avoir enquête policière? Sûrement. Le Journal de Montréal rapportait ce matin, je pense qu'il y avait eu 3 perquisitions de la part des peacekeepers à Ganawake. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Évidemment qu'il y a plusieurs réponses à ça. Une réponse politique, une réponse policière. Et évidemment, c'est le service de police à appliquer les lois. Jusqu'où ils sont-ils prêts à aller? Ben, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois même.
Je voyais le grand chef de Kanasetake qui lui-même est contre la vente de cannabis sur son territoire. Là. Est-ce que c'est pas, j'allais dire, une bataille un peu perdue d'avance? Puis je présumerais pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais les peacekeepers, est-ce que dans le fond, ils n'ont pas les moyens plutôt limité de lutter sur le territoire de Ganawake, entre autres, d'arriver puis de dire « Bon, ben nous autres, on débarque puis on va démanteler tout ce qui est vendeur de potes sur notre territoire. » Est-ce que c'est un peu illusoire de penser que ça va arriver, autrement dit?
Bien, illusoire, le mot est fort, mais il est quand même vrai. Les peacekeepers, oui, c'est l'autorité policière à Ganawake, mais ils répondent aussi au conseil de bande. Hein? Donc, il y a un niveau politique. Et jusqu'où vont-ils faire appliquer la loi? Et là, au niveau politique, évidemment, certaines personnes vont prétendre que Ganawake, c'est ni Canadien ni Québécois, mais c'est territoire Mohawk ou réserve Mohawk. Ils vont appliquer leur loi. Évidemment, là, je suis pas juriste, je suis pas bon au niveau de la loi constitutionnelle, mais c'est ce à quoi ils doivent répondre. Ils doivent faire appliquer la loi, et en vertu de l'entente où ils sont, leur service de police est financé et par Québec et par Ottawa, l'entente tripartite, entre autres, si je me souviens bien. Ils doivent faire appliquer ces lois-là, mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ben, c'est ce qu'on va voir en place. Ah. J'ai pas l'impression qu'on va avoir des grandes opérations sous peu.
Dans le fond, est-ce que ça légitime un marché qui était déjà pas mal présent puis qui était déjà toléré aussi, là?
Le marché s'y trouvait déjà, le marché s'y trouve encore, et on peut constater, évidemment, avec ce que j'ai entendu au bulletin de nouvelles tantôt à 98.5, pas une rareté dans le produit, mais il y a déjà des ruptures de stock. Alors, évidemment, le marché noir est prêt à répondre à cette demande-là. Ouais. Le faisait avant et va continuer à le faire, oui, tout à fait.
Dites-moi, François Doré, on le sait que ça a été, entre autres, on a parlé beaucoup, on parle de Ganawake, on parle de Kanasetake, à quoi Sassenay aussi a été au centre c'est une espèce de no man's land, si on veut, c'est un territoire qui touche trois endroits, le Québec, l'Ontario, les États-Unis. Est-ce que c'est encore une plaque tournante pour plusieurs criminels, c'est-à-dire d'avoir de l'aide de l'intérieur provenant de là? Est-ce que les policiers ont une certaine emprise sur ce territoire-là ou c'est encore une espèce de vide juridique?
Bien, sans être un vide juridique, disons que les policiers n'ont pas tout, ont pas la vie facile à quoi ça se met. Effectivement, territoire à la fois canadien, bon, québécois, ontarien et américain. C'est quand même un grand secteur. Oui, l'hiver, on voit des skidous passer. L'été, l'automne, le printemps, on voit des bateaux passer, la circulation s'y fait facilement. Puis oui, c'est une plaque importante où la contrebande américaine-canadienne peut se faire, et ça aussi, ça continue, c'est sûr. Il peut y avoir des interventions, les policiers font ce qu'ils peuvent, malheureusement, ils ne peuvent pas être là en tout temps. Ça, on l'a déjà vu dans le passé.
Mais que dites-vous aux auditeurs qui nous écoutent puis on dit, bon, c'est ça, on va faire des opérations, on va arrêter des gens qui vont être allés s'acheter du pot dans, ou des cigarettes, on va les coller sur le bord de la route puis on va leur donner des constats d'infraction à eux. Ils vont se retrouver avec eux des problèmes alors que le vendeur, lui, va pouvoir continuer à faire sa job sans être achalé par la police.
Ben c'est là où on va voir jusqu'où on est prêt à s'attaquer au crime organisé, jusqu'à quel point on est prêt à s'attaquer au crime organisé. Parce que le but du gouvernement fédéral en légalisant la marijuana, évidemment, c'est de faire en sorte que le crime organisé se retire du marché, évidemment en apportant un certain pécule au gouvernement. Mais le crime organisé était là avant, il y est encore. Et là, est-ce qu'on va s'attaquer réellement au crime organisé pour des petites quantités, des moyennes, des grandes quantités? C'est ça qu'il faut évaluer, c'est ça qu'il faut voir. Puis je suis convaincu que les services de police le font. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En bout de ligne, est-ce qu'on va mettre tous les efforts nécessaires? Je suis pas convaincu de ça.
Ça risque de continuer comme ça, puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de dérapages, finalement.
Ben, il faut pas qu'il y en ait trop de dérapages. Puis la SQDC, c'est quoi? C'est 12 endroits au Québec qui sont disponibles actuellement par le courrier. Et j'entendais des dizaines de milliers de commandes postales au cours des derniers jours, des ruptures de stock. Je pense qu'on était au début du phénomène légal concernant, évidemment, le cannabis récréatif. On n'est pas au bout de nos peines, je pense.
Est-ce que, comme ancien policier, là, j'en profite pendant que vous êtes là, on a parlé beaucoup de... Ça a été la rhétorique là, du gouvernement Trudeau. Je me souviens d'avoir eu un échange plutôt corsé avec une des ministres qui nous répétait l'histoire de la lutte contre le crime organisé. Moi, j'ai toujours cru que c'était de la foutaise. Là. Personnellement, j'ai jamais cru à ça une minute. Là. J'ai jamais cru qu'il y avait une intention réelle puis que le crime organisé était en train de frémir à penser que le gouvernement fédéral allait rendre ça légal. Vous, comme policier, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai pas l'impression que ça dérange beaucoup le crime organisé. En fait, ça augmente la concurrence. Si on veut, le crime organisé va s'adapter. Le crime organisé n'est pas obligé de s'en tenir aux lois, de vendre aux gens à partir de 18 ans, de vendre à un tel prix, de vendre à une telle heure ou à un tel endroit. Le crime organisé s'est déjà adapté. Il y a peut-être même, qui sait, des prête-noms qui vont travailler là. Il y a peut-être, on a vu des endroits où on va faire pousser de la marijuana à des fins commerciales. Il y a peut-être des prête-noms du crime organisé qui sont déjà mêlés à ça. Alors, le crime organisé, bon, c'est peut-être une roche de plus dans leurs souliers, si vous me passez l'expression, mais ils vont continuer à être actifs. Ils vont peut-être même rendre plus accessibles des drogues plus dangereuses que la marijuana. On sait qu'ils sont actifs là-dedans aussi, que ce soit le fentanyl, que ce soit l'héroïne, la cocaïne. Et en passant, j'entendais, ou du moins je lisais dans le journal Montréal, on parlait de hashish disponible. Oui. Le hashish, là, fait pas partie des produits de ce que la SQDC distribue, sauf erreur de ma part. Ils sont actifs là-dedans aussi.
Merci beaucoup, François Doré, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.